Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. Nous sommes quoi, le 3 avril, le 2 avril, puisque hier nous avons eu droit à beaucoup de plaisanteries fines, dont celle d'André Bercoff qui, figure-toi, se présente à la présidence.
J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi?
Évidemment, c'est une blague. Et Charles, quant à lui, s'est présenté pour être pape. Donc il était hier au Vatican, dont il nous revient. Parce que, figurez-vous que place aux jeunes, on lui a demandé des conseils pour placer l'or du Da Vinci Code, encore une fois.
Oui, ben, ils aimeraient bien, les pauvres. Mais la réalité, c'est que l'Église est extraordinairement riche en actifs, parce qu'elle est là depuis toujours. Donc, en général, par exemple, dans les grandes villes, elle a l'immobilier au bon endroit, pour des tas de raisons. Mais ils sont extraordinairement pauvres en cash flow. Et donc, ils ont des problèmes de gestion. Alors, qui sont multipliés par un autre problème, c'est que l'Église, c'est un foutoir pas croyable. Vous avez donc l'Église, puis vous avez les ordres religieux. Et les ordres religieux, ben, ils ont des personnalités juridiques indépendantes. Donc, puis il y a des ordres religieux où il y a quasiment plus de religieux parce qu'il y a des ordres qui meurent, qui disparaissent. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois acquis? Ça pose des problèmes. Donc, ils ont des problèmes de savoir à qui appartient quoi. Et donc, ils sont en train de régler ça. Et donc, ils réfléchissent à la façon dont le patrimoine de l'Église devrait être géré. Et donc, j'ai été convoqué au Vatican, à ma grande surprise et à ma grande satisfaction. Et donc, vous trouverez sur le site des photos de moi entouré de gardes suisses. Vous verrez, c'est...
Je les ai mis sur Twitter. Alors, aujourd'hui, un sujet beaucoup moins divertissant. J'ai laissé à Léonard le soin de parler avec Charles. Vous l'aurez vu, l'émission est sortie mardi, de l'inéligibilité de potentiel, puisque appel il y a et appel sur lequel devrait intervenir avant 2026. Donc nous allons parler de quelque chose de moins conjoncturel et de beaucoup plus structurel, qu'est la dette de la France et la situation de la France aussi. Parce que ce n'est pas parce que nous vous en alertons depuis des années que la situation n'est pas dramatique et que la situation ne continue pas à avancer vers le pire. Donc je me fais beaucoup de soucis, nous faisons collectivement beaucoup de soucis, raison pour laquelle aussi nous avons créé l'Université de l'Épargne pour vous proposer des façons de protéger votre épargne parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, pour vous expliquer un peu plus tout ça et faire un travail pas à pas avec vous sur les chiffres, j'ai donc lu le livre de Agnès Verdier-Molinier, qu'on ne présente plus, de l'IFRAP, qui s'appelle « Face au mur, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, insécurité ». Donc nous allons parler de ce « Face au mur » sur lequel arrivons.
Le livre va parler... dans le fond de la dette, etc., qui est un sujet très intéressant. Et moi, je vais essayer de montrer, en faisant des petites montées au filet de temps en temps, ce que ça veut dire pour vous, au niveau de votre revenu disponible, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire et tout. Parce que la dette, c'est un gros machin, personne n'y comprend rien. Vous vous souvenez quand ce pauvre Bérégovoy avait... quelqu'un lui avait prêté 100 000 euros, tout le monde comprenait ce que ça voulait dire, alors que quand un corneau perd 20 milliards sur EDF, personne ne comprend ce que ça veut dire, tout le monde s'en fout. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça veut dire pour votre revenu individuel.
Et ça rejoint effectivement ce que tu dis, c'est que pour la plupart d'entre nous sommes nés avec la dette. Mmh. Donc, ça fait effectivement 50 ans de compte public dans le rouge, puisque la dernière fois que nous avons équilibré un bilan, c'était en 1974. Mmh. Ce qui fait qu'effectivement, moi, j'ai grandi tout le temps en nous disant « on a de la dette, on a de la dette ». Ce qui fait qu'à force de crier au loup, effectivement, on a l'impression que c'est quelque chose d'immatériel et de presque inconséquent, alors que pas du tout.
On a de la dette et on a un problème de retraite.
Voilà.
Et c'est les deux trucs avec lesquels j'ai grandi. Ah si, il y a eu aussi les réformes de la Sécu.
Et nous avons une dette, par ailleurs, qui est de 400 milliards d'euros plus grande que nos voisins européens. Donc, non seulement on a de la dette, mais elle est plus conséquente.
Ah oui, parce qu'on a un poids de l'État qui est beaucoup plus élevé.
Voilà, on a un poids de l'État beaucoup plus élevé, et c'est un peu la magie des intérêts composés aussi. Comme on a depuis longtemps un poids de l'État beaucoup plus élevé, et ben le poids de ce prêt s'additionne.
Parce que vous ne savez pas si vous avez remarqué, mais l'État, il est, pour ainsi dire, toujours en cash flow négatif.
Oui.
C'est-à-dire que... on s'en foutrait du poids de l'État si les recettes étaient égales aux dépenses. Il n'y aurait pas de dette. Mais là, ils comblent le trou entre leurs recettes et leurs dépenses en faisant de la dette, c'est-à-dire en foutant le poids sur nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est bien.
Alors, la dernière fois où on avait eu recours au FMI pour demander un prêt, c'était en 58. C'était au moment où nous avions des dépenses conséquentes au moment de la guerre d'Algérie. Et à ce moment-là, on avait, il faut se remettre en 58, un taux d'inflation de 16%. Mmh. 16%, tu te rends compte ?
C'est la quatrième.
Oui, mais 16% quand même tous les jours, ça, ça change. Une diminution des salaires au réel de 3% et un déficit de plus de 5%. On est pratiquement à 6, hein, je dis ça, oui, je dis rien. Et la France fait face à ce moment-là à une grave crise financière, ce qui permet derrière, effectivement, à De Gaulle de lancer le plan Pinay-Rueff, et qui va assainir tout ça avec une politique limitant et freinant les dépenses publiques, ce qui aura permis...
Mais on avait une très bonne démographie.
On avait une très bonne démographie et surtout, on avait le contrôle de notre propre monnaie, ce qui permettait aussi de faire ce fameux plan Pinay-Rueff, c'est-à-dire en gros une dévaluation, chose qu'aujourd'hui nous est complètement impossible parce que, encore une fois, l'euro nous tient dans un marché unique avec des taux de change qui sont fixes, qui ne nous permet pas de dévaluer et d'avoir de relance compétitive.
Voilà, si vous voulez... Imaginons, je vais essayer d'expliquer ça rapidement parce que c'est important. Il y a des salaires du secteur public qui sont payés par l'impôt et les salaires du secteur privé qui sont payés par les profits. Allez, hein, soyons simples. Si le taux de change est variable et qu'il baisse et qu'on a trop de fonctionnaires, qu'on a plus de fonctionnaires que les autres, je ne dis pas qu'on a trop de fonctionnaires, mais on a plus de fonctionnaires que les autres. Donc, plus la monnaie baisse, plus dans le fond tu payes les fonctionnaires en monnaie de singe, mais le secteur privé, lui, il se débrouille pour rester compétitif puisque la monnaie baisse, tu vois, avec vis-à-vis de l'extérieur. Donc pendant très longtemps, la France s'en sortait industriellement parce que sa monnaie se pétait la gueule pour payer les fonctionnaires avec une monnaie qui valait pas grand-chose, et de moins en moins. Mais à partir du moment où tu bloques le taux de change, la variable d'ajustement dans le système, ça devient les profits des sociétés. Et à ce moment-là, quand tu bloques automatiquement... si plutôt que de faire une usine en France, tu vas la faire en Allemagne, puisque eux, les fonctionnaires qui ont mis ce système au point, ils sont payés du coup, si j'ose dire, en Deutschmark. Et ceux qui touchent des cacahuètes, c'est les entrepreneurs. Ça veut dire qu'automatiquement, on se désindustrialise et on s'appauvrit. Mmh. Et c'est pas possible autrement. C'est ce que j'avais écrit dans mon premier livre, Des lieux menés par des ânes, en disant que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. On a arrêté pendant longtemps. Puis maintenant, même l'Allemagne se fait casser la gueule par la Chine. Alors, qui peut-on avoir confiance si on ne peut plus avoir confiance dans les Allemands ? C'est terrible.
Donc, en juin dernier, la Commission européenne, on en a déjà parlé ici, a placé la France en procédure de déficit. Parce que notre déficit budgétaire est supérieur à 3%, et non seulement il est supérieur à 3%, mais la voisine, là on est à 5,4 et on parle peut-être d'arriver à 6%.
Donc, à mon avis, ce sera beaucoup plus.
Oui, évidemment, on laisse le hors-bilan, mais on est dans un état absolument catastrophique. Et on a... notre dernier bilan positif en France était en 74, à 8,5 milliards de francs à l'époque. Et en 75, les dépenses publiques représentaient 46% du PIB, les prélèvements obligatoires 35%. Aujourd'hui, on est à 57% de dépenses publiques et environ 44% de taux de prélèvements obligatoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est le record mondial, je crois.
Oui, oui, oui. Et depuis le début des années 2000, ce sont clairement les dépenses publiques qui ont bondi. Nous surtaxons de 150 milliards nos entrepreneurs et nos ménages et nous surdépensons de l'ordre de 260 milliards par rapport à nos voisins. En moyenne, sur les 50 dernières années, la France est déficitaire de 57,4 milliards d'euros. On est déficitaire d'un ministère des armées par an, soit 66 milliards d'euros à peu près. Voilà.
Mais ça ne va pas s'améliorer pour une raison simple, c'est qu'il est probable qu'on est en train de rentrer en récession, c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, et vous verrez que dans les récessions, le déficit budgétaire se creuse. Donc on me dit qu'on va faire 5,4, 5,6 ou 6% cette année. Dans chaque récession, on perd en moyenne 2 à 3 points de PIB, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse 8 ou 9 en fin d'année.
Alors,
c'est catastrophique.
Le catastrophisme se rajoute à ça, c'est que dans ces cas-là, notre notation, entre guillemets, descend, et donc... on achète des points de dette encore plus chers. C'est-à-dire qu'il nous coûte sur les marchés de plus en plus cher d'emprunter Et donc, comme on a on doit financer cette dette qui est roulante,
oui.
On se retrouve à payer de plus en plus cher en intérêt pour
la dette
pour
du passé. Mais il y a une raison qui est très simple, c'est qu'il y a toute une série de grandes institutions, les banques centrales ou des grandes compagnies d'assurance ou des choses comme ça, qui ne peuvent pas avoir une dette qui soit inférieure à double A. Elles n'ont pas le droit. D'après leur statut, elles n'ont pas le droit. Donc si on devient simple là, non seul, ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui vont devoir vendre leur dette. Et c'est pour ça qu'évidemment, les agences de notation hésitent beaucoup à mettre la France en simple A, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un effet cascade absolument gigantesque. C'est-à-dire que non seulement il faudra financer le budget, mettons qu'à 350 ou 400 milliards, mais en plus, il faudra racheter la dette des gens qui vont arriver en disant, dites, vous êtes gentil, mais moi, à ce prix-là, à cette notation-là,
je peux pas dans mes fonds. Mais oui, parce que tu es obligé, bien sûr, tu as des critères. Alors, si on regarde en pratique, depuis le premier mandat de Macron, ça a été 691 milliards de plus. Le second mandat, 765 milliards de dettes en plus.
Je peux pas attendre le troisième.
Soit plus de 1450 milliards de dettes en plus en deux mandats.
En 7-8 ans.
Voilà, 1450 milliards.
Il n'est pas fini le deuxième.
Il n'est pas fini.
On aimerait qu'il soit fini.
Mais on peut encore faire de grandes choses.
Non, mais on va rajouter, d'ici la fin du deuxième mandat, on va rajouter au minimum 600 milliards. Donc alors, on sera à 1300 milliards pour le deuxième mandat.
Les dettes des collectivités territoriales sont, elles, relativement stables. Ce qui a véritablement explosé depuis un moment, c'est les dettes de la sécurité sociale.
C'est beaucoup les retraites.
C'est beaucoup les retraites.
Ça fait 14-15% du...
Elles sont passées de 8% à 11,7% du PIB en 2020. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2025, là, on a 200 milliards d'euros qui vont arriver à échéance sur les marchés et 243 milliards d'euros en 2026.
Et en plus, oui.
Et la BCE...
De remboursement.
Puisque tu sais que c'est roulant.
On va faire 300 milliards, donc on va
oui, mais la BCE a dit, elle a stoppé ses rachats de dettes souveraines, en décembre. Jusqu'à ce qu'elle recommence, mais bon... C'est un peu nous avec le régime, tu sais. Bon, allez, c'est une dernière cuillère. Bon, jusqu'à ce que, bon... c'est maman quand elle mange les gâteaux, tu sais. Bon,
petit morceau par petit morceau.
Oui, c'est ça. Tout petit. Et donc, si tu regardes la boule de neige de la charge de la dette, le coût de la dette était en 2022 de 51 milliards et il devrait passer à 89 milliards en 2027. C'est ce que nous coûte le financement
et
de
la
dette.
Et alors, je voudrais faire une petite remarque, mettons 90, parce que ça facilite les calculs. Hein, et mettons que la moitié de la dette soit détenue par des étrangers. Ça veut dire que maintenant, on paye 45 milliards par an à des étrangers. C'est-à-dire que il faudrait tout ce que les premiers 45 milliards que les Français gagnent en valeur ajoutée dans le PIB vont aux étrangers. Et puis s'il y en a en plus, bah, ça ira à la hausse du niveau de vie. Mais il n'y en aura pas des masses en plus. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de montrer tout à l'heure, c'est que du coup, le niveau de vie des Français, c'est ce que je me tue à dire, va baisser maintenant de façon inéluctable, puisque le premier poste qu'on doit servir dans le budget, c'est...
La charge de la dette.
Aux étrangers, surtout. Voilà.
Oui, bah c'est la charge de la dette, ergo, à l'étranger. Ouais, donc, toute valeur créée...
D'abord, aux étrangers.
Aux étrangers. Et l'autre chose qui fait très peur dans cette idée-là, c'est la fameuse loi Sapin 2 qui peut permettre de capturer l'épargne à la source.
Si le marché devient incohérent, c'est-à-dire si par exemple le marché se rend compte que la France est en faillite et que plus personne ne va acheter quoi que ce soit, non. À ce moment-là, le gouvernement français a le droit de ne pas rembourser sa dette vis-à-vis des Français.
Et ça veut dire normalement...
Il la prolonge.
Alors, normalement, ça devrait être que de 6 mois,
oui.
Mais en vrai, tu peux la faire rouler, elle aussi.
Mais c'est ce qu'on disait à l'époque où il a passé cette loi, on a dit « ça sent le sapin ». Mais maintenant, ça commence vraiment à sentir le sapin.
Alors, fin décembre 2024, la Banque de France estimait que 55% de la dette publique était détenue par des étrangers.
Donc, je disais 50, oui.
Ouais. Mais sur la dette à court terme, c'est 83%.
Ouh, ça c'est pire, parce que ça veut dire qu'ils peuvent s'en aller à toute allure. Hein.
Je suis bien d'accord que c'est pire. Donc en vrai, sur du court terme, on est beaucoup plus fragile que ce qu'on laisse paraître, parce que 83%, ça veut dire qu'on est littéralement aux mains d'autrui.
Bah oui, c'est assez grave.
Et sur les étrangers qui...
Heureusement, la dette française a une duration d'à peu près 7 ans, c'est-à-dire qu'elle tourne dans son ensemble en 7 ans. Donc la partie court terme doit être moins importante qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, ils ont complètement laissé dériver la partie court terme. Et donc aujourd'hui, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais certainement au-dessus de 50%, qui est à moins d'un an. Alors eux, ils sont vraiment... ils ont le couteau sous la gorge. Ouais. Mais nous, ça doit être, les bétons, peut-être 14 ou 15%, si c'est un septième.
Ouais.
Mais quand même, c'est beaucoup.
Alors moi, j'arrive dans ma partie 2, qui est faire des économies. Donc on va passer à ta partie démonstration de la dette avant de changer sur...
Sur ce que ça veut dire. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait trois graphiques que je vais vous montrer. Le premier, c'est quelle est l'origine intellectuelle de la dette. Pourquoi la dette, c'est
sans... péché.
Le péché. Non, mais quelle est la justification de la dette? Pourquoi? Parce qu'il y a un économiste que vous connaissez tous, qui s'appelle Keynes, qui était un Anglais, et qui a eu beaucoup d'influence sur les politiques économiques après la Seconde Guerre mondiale, qui disait que quand l'économie ralentit, il faut que l'État augmente ses dépenses de façon à freiner le ralentissement, et qu'en faisant ça, il rend les récessions plus faibles, s'il y en a, et ça va permettre ensuite au secteur privé de se développer plus rapidement. Donc, en quelque sorte, l'État sert un petit peu
de coussin, d'amortissement.
D'amortissement, voilà, c'est ça. Et ce que Keynes disait aussi, parce que c'était un excellent économiste, il disait, mais une fois que l'économie reprend, à ce moment-là, il faut que l'État rétablisse les comptes de l'État, passe en surplus. Tu vois, c'était donc, on le met en déficit quand ça va mal, et on le met en surplus quand ça va bien. C'est ce qu'a fait la Suède depuis 92, c'est ce que nous, on n'a jamais fait. Nous, on était en déficit, et puis une fois qu'on était en déficit, la fois d'après, on se mettait encore plus en déficit, puis encore plus en déficit, donc on l'a... Donc, disait Keynes, si ça se passe normalement, vous augmentez les dépenses de l'État, et à 2-3 ans plus tard, là, comme l'économie croît plus vite, les recettes fiscales sont plus importantes, et donc, à ce moment-là, la création de richesse est supérieure à l'accroissement de la dette. Donc, tu fais la différence, création de richesse sur 7 ans, par exemple, moins accroissement de la dette sur 7 ans. Mmh. Et si c'est positif, ça veut dire que le multiplicateur keynésien, c'est comme ça qu'on appelle ça le terme, est positif. Alors, premier graphique, je vous montre donc, ça s'appelle le multiplicateur keynésien en France est négatif depuis 15 ans. Donc, vous voyez, ça commence bien. Et vous voyez, la ligne bleue, c'est l'accroissement du PIB, la ligne rouge, c'est l'accroissement de la dette. Donc vous voyez que de 1985 à, mettons, 1995, vous voyez là, les lignes verticales à peu près, hein, tout ça c'est du pifomètre, hein, vous voyez que la ligne bleue, dans le fond, se développe plus que la ligne rouge, et l'écart entre les deux, qui est en milliards d'euros, reste positif. Donc le multiplicateur keynésien est positif, l'État qui dépense plus, ça permet en effet une croissance peut-être un peu plus forte que celle qu'on aurait eue. Puis de 1995 à, mettons, 2000, la grande crise financière, 2008-2009, c'est long quand même, vous voyez que c'est kiff-kiff. Ça reste, on est à peu près. Regardez ce qui se passe depuis 2015. La dette a littéralement explosé, c'est-à-dire à peu près au moment où le Mozart de la finance est arrivé là. Hein. Et puis notre PIB, lui, ben, il merdoit tranquillement. Quoi. Il n'augmente quasiment plus sur 7 ans. Donc ça veut dire que là, en bas, vous voyez, en droite, on est dans un multiplicateur négatif. Alors, donc ça veut dire que plus maintenant on emprunte, plus la France s'appauvrit. C'est plus comme dans les années 50, 60, 70, où plus la France empruntait, plus elle s'enrichissait, plus on s'appauvrit.
Alors, mais oui, mais c'est logique, parce que quand on empruntait dans les années 50, qu'est-ce qu'on faisait avec? On construisait des gymnases, on améliorait les routes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on emprunte, qu'est-ce qu'on fait? On fait du transfert social.
Voilà.
Donc, il est certain que tu n'as pas du tout la même rentabilité dans ton pays quand
là,
crées des routes et quand tu payes des retraites ou tu payes des SMIC ou des RSA.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, regardez ce que ça veut dire. Là, je passe au deuxième qui s'appelle France, pouvoir d'achat des gilets jaunes et pouvoir d'achat du salaire moyen.
Tu me fais pas le noir?
Le noir, c'est la différence entre les deux. Tu vois, là, ça veut dire que c'est positif. Mm-hmm. Là, ça veut dire que c'est kiff-kiff. Et là, ça veut dire que depuis...
C'est la trapadette.
C'est la trapadette. On est dans une très, très belle trapadette. Bon. Alors, maintenant, regardons ce que ça veut dire. Quand les gens s'appauvrissent, il y a une règle qui est très triste, mais qui est malheureusement réelle, c'est que ceux qui en prennent le plus plein la tête, c'est les plus pauvres. C'est comment, en quelque sorte, c'est le proverbe chinois, vous savez, qui dit que quand les riches maigrissent, les pauvres crèvent de faim. Donc, j'ai simplement pris donc, l'accroissement du PIB, vous savez, qui est celui qui est de la page, le graphique précédent, là, et j'ai divisé ça par, j'ai pris donc le salaire moyen, qui est la ligne bleue, divisé par l'indice des prix de l'INSEE. Donc, c'est monsieur tout le monde. Donc, monsieur tout le monde, tu vois que jusqu'à l'arrivée de la trapadette en 2012, son salaire moyen montait en termes réels gentiment. Tu vois, lui, il souffrait pas tellement.
Oui.
Il était tranquille. Mais si vous prenez mes vieux copains, les gilets jaunes, et que vous déflattez parce qu'ils achètent eux, c'est-à-dire la bouffe, l'énergie et les loyers, c'est-à-dire les trois postes absolument indispensables, vous voyez que eux, comme sont les plus pauvres, en quelque sorte, les plus pauvres, c'est le canari dans la mine. Tu sais, le canari dans la mine, c'était le. On mettait les mineurs dans le temps, mettaient des canaris parce qu'ils claquaient les premiers quand ils manquaient d'oxygène.
Bah, ils sentaient le coup de grisou arriver.
Ben, donc, et tu voyais le canari mourir.
Tu remontais vite.
Tu remontais aussi vite que tu pouvais. Ben, eux, c'est le canari dans la mine. Et tu vois que ça commence à peu près à l'arrivée de l'euro, tu vois. J'ai mis à 100 à l'euro. Tu vois, on a quelques 2-3 ans de bon parce que les taux d'intérêt baissent, etc. Puis ensuite, clac, ça commence à se péter la gueule. Puis il y a une période de stabilisation et avec M. Macron, on rebelote, on se répète la gueule. Donc ça veut dire que les plus pauvres ont eu une baisse de leur niveau de vie de 10% depuis l'arrivée de l'euro. C'est gigantesque. 10%, c'est-à-dire que déjà, c'était pas la gloire, hein. Mais alors, en ce moment, c'est monstrueux, quoi. C'est absolument insensé. Donc ça veut dire que maintenant, les bleus, la prochaine étape, en haut, ils vont partir en dig-dig comme les noirs l'ont fait depuis 20 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est fini. Là, maintenant, c'est le salaire moyen en France qui va baisser. C'est pas possible autrement. Maintenant, ça va baisser. C'est avec ces ponctions que viennent de l'étranger. Donc ça veut dire que socialement, ça va devenir impossible. C'est plus simplement... Dans le fond, quand ta femme de ménage gueule parce qu'elle s'en sort pas, tu te dis c'est bien triste ma pauvre dame, mais enfin ça, tu as un petit sentiment de solidarité, mais ça te touche pas vraiment. Tu te fais du souci pour les pauvres, mais tu te fais pas du souci pour toi. Là, la majorité de la population française va se faire du souci pour elle, pour leurs enfants, tout ça, c'est pas possible autrement. Tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on vous avait proposé, ça? J'y reviens une fois encore. Vous savez, avant qu'on crée l'université de l'épargne, on avait fait une espèce de portefeuille où je vous avais dit, la seule chose qu'il faut avoir, c'est des actions françaises qui n'ont rien à voir avec cette baisse du niveau de vie qui va arriver. Tu te souviens, c'était...
Oui, bien sûr.
Et j'avais mis 10 actions. Il y avait LVMH, il y avait L'Oréal, il y avait Air Liquide, par hasard. Et donc, tu vois que la ligne bleue, c'est l'indice de la Bourse de Paris qui comprend la ligne rouge. Hein, c'est... Et tu vois que depuis la ligne rouge, c'est les belles valeurs, donc qui n'ont rien à voir avec la France, hein, ben, tu as fait à peu près 2% de plus que l'indice de Paris. C'est-à-dire que tu as dû faire 4 ou 5% de mieux que les affaires de Paris, qui sont, si j'enlevais la ligne rouge de la ligne bleue, je ferais 2%, je ferais 4 ou 5. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que la recommandation qu'on avait faite pour essayer de protéger votre épargne, c'était de vous dire, surtout, vous restez en action, pas d'obligation. À l'époque, on avait mis de l'or et des obligations chinoises s'y aider aussi. Mais voyez à quel point la ligne rouge est moins volatile que la ligne bleue. Tu vois, la ligne bleue, elle se pète la gueule, elle remonte, elle se pète la gueule. Parce que de temps en temps, il y a des bouffées d'espoir. On se dit, on vient d'élire un type génial qui a fait l'inspection des finances, qui a 30 ans, qui comprend tout. Et puis, il a rien compris du tout. Et donc, tu vois bien que ça marche pas. Donc... La stratégie qu'on a essayé de développer d'abord dans l'Institut des Libertés et ensuite dans l'Université de l'Épargne, c'était de mettre les épargnants à l'abri d'un tsunami qui est inévitable. Maintenant, je n'ai aucune idée du moment où il se passera. Mais par contre, en vous mettant dans ces trucs-là, vous êtes quand même monté, allez, de 55% en 5 ans, ce qui est mieux qu'un coup de pied dans l'arrière. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on essaie de dire, c'est, encore une fois, la gestion, c'est pas de prévoir, c'est de s'adapter à ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est que tout ce que j'appelle les contrats en France ne valent rien. Donc il faut avoir que des actifs, et j'avais mis de l'or, et puis des contrats chinois, et ça marchait très bien aussi. Donc voilà, c'était simplement pour essayer d'expliquer comment vous passez d'une analyse de Madame Bernier, comment elle s'appelle, Verdier-Molinier, Madame Verdier-Molinier, qui est parfaitement justifiée, qui est parfaitement bonne, vous faites une transition pour savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et c'est un élément très important, parce que sinon c'est très anxiogène. Vous vous dites, bon, alors je vais en ramasser plein la gueule, et je vais attendre simplement d'en ramasser plein la gueule. Parce que vous pouvez bouger, vous pouvez vous adapter, vous pouvez sortir, vous pouvez essayer de vous protéger. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, ça me paraît extrêmement important, c'est que c'est bien de parler des problèmes, mais c'est mieux de parler de la façon dont vous minimiserez l'impact qu'ils auront sur vous.
Voilà, alors ça, c'est la partie solution pour le particulier. Donc, si vous êtes en particulier, pensez à votre épargne, pensez à la mettre de côté, pensez à la placer et essayez, dans la mesure du possible, de vous protéger du risque qui va arriver d'énormes déclassements.
Sans qu'on puisse dire
quand ? Non, mais bien sûr, on va pas vous dire ça va arriver le 16 février 2026.
On n'en sait foutre rien.
En revanche, ce qu'on peut vous dire, et c'est souvent ce que font Charles et Didier, c'est de vous dire toutes les conditions pour une avalanche sont réunies. Est-ce qu'on sait quand cette foutue avalanche va péter ? Bien sûr que non. Mais de vous dire que le terrain est mou, qu'il a neigé, qu'il n'a pas eu d'avalanche depuis un moment, que toutes les conditions sont réunies pour une avalanche, ça, on peut vous le dire. Bon.
Et tant qu'elle ne se produit pas, les gens me disent « Ah, vous annoncez des mauvaises nouvelles ». Mais non, je vous dis la réalité et ensuite comment vous protéger.
Et la réalité est les conditions pour une avalanche sont réunies.
Et les protections qu'on vous a offertes ont marché.
Oui.
C'est-à-dire que c'était pas, encore une fois, la gestion, c'est pas de prévoir quoi que ce soit, c'est d'enlever son pognon là où on est à peu près certain qu'il va se faire massacrer. C'est tout quoi. Voilà. C'est à la portée vraiment d'une intelligence moyenne.
Alors, maintenant, ça c'était la partie pour vous protéger, vous en tant que particulier. Maintenant, la question est, si Charles arrivait demain aux finances, quel genre de choses pourrait-il faire? Et en tous les cas, quel genre de choses devrait-on faire? Et vers quel choix devrait porter votre vision politique,
votre vote,
ce que vous devriez attendre d'une personne responsable qui aujourd'hui viendrait aux commandes dans la situation factuelle que nous venons de vous ériger. Donc premièrement, la première chose à faire serait d'améliorer l'efficacité des collectivités locales et supprimer les doublons avec l'État, parce qu'on sait qu'il y a eu une multiplication au travers du temps d'un certain millefeuille territorial, que ça nous coûte encore une fois, un pognon de dingue, pas forcément pour les bonnes raisons.
Alors la population, depuis les réformes Mitterrand en 80, a augmenté, je crois, de 25%. Et le personnel dans les collectivités territoriales a augmenté de 65%.
Voilà, donc
j'ai pas l'impression qu'on soit mieux servi.
J'ai pas l'impression qu'on soit mieux servi. Et ça pourrait nous amener jusqu'à 26 milliards d'économies, ce qui est quand même pas une paille. Et rien que sur le doublon direct, c'est-à-dire véritablement au niveau des territoires, voilà, 9 milliards. Rien que sur, on supprime.
Et ça simplifierait la vie des gens, parce que si vous faites une maison dans la région de Toulouse, on avait parlé à un chauffeur de taxi, d'où ma science considérable, il m'avait dit, monsieur, je suis en train de faire une maison, donc je vais raccorder à l'eau.
Donc, il faut que je demande au village, à la ville.
À la communauté de communes, à la région, et il y avait trois personnes qui s'occupaient des raccommandements à l'eau. On pourrait n'en avoir qu'un.
Oui, mais ça, c'est la même chose dès que tu veux t'occuper d'un hôpital. De nos jours, t'as 18 Pékins qui arrivent dans la salle de réunion, qui ont tous des titres plus ronflants les uns que les autres, alors qu'avant, t'avais un directeur d'hôpital.
On avait un intendant.
Voilà, un économe.
Un économe qui faisait la bouffe. Et tout le monde gueulait contre lui, d'ailleurs. Moi, je me souviens qu'on était au lycée quand... J'étais au lycée pensionnaire pendant une année à Pau, c'était une vieille histoire. Et donc, il y avait l'intendant qui passait, l'économe qui passait dans les couloirs. Tous les types qui étaient en train de bouffer à déjeuner, qui se disaient assassins, affameurs.
Le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'on lui donnait comme budget.
La fameuse.
À l'hôpital, ils ont quoi? Ils ont 1,10€ pour faire 3 repas par jour, un truc comme ça. Donc après...
Et ils les donnent dans des trucs que les vieux ne peuvent pas ouvrir parce que c'est trop...
Oui, mais ils donnent surtout ça dans des sortes d'assiettes en plastique. Là, déjà que tu n'as rien à faire de toute la journée, en plus, tu bouffes de la merde. Alors franchement, c'est pas...
Surtout, le repas, ce n'est pas le moment que tu attends avec impatience.
Tu devrais, parce que quand même, c'est normalement un des bons moments de la journée. Enfin, moi, je trouve...
Et encore une fois, c'est là où vous voyez la différence entre les pauvres et les riches, qui est scandaleux d'ailleurs, c'est que moi j'ai été, eu un petit problème de santé il y a quelques temps, j'ai été hospitalisé à l'hôpital américain, et ben on te propose un menu, il y a différentes choses, t'es bien servi, et c'est pareil idiot, mais d'avoir de la bonne bouffe dans un cadre à peu près agréable, ben, ça aide beaucoup au rétablissement.
Eh oui, mon bon monsieur. Autre chose à faire, il faudrait réorganiser les opérateurs de l'État. Donc ça ferait à peu près 7 milliards d'économies. Il faudrait diminuer de 10% donc le nombre d'opérateurs publics et réduire les financements versés par l'État d'au moins 10%.
Oui, et on pourrait aussi fermer les... Il y en a 1400, je crois, hautes autorités, grands conseils.
Bien sûr. D'ADEM, d'AREM, d'ASEM.
Ça fait 140 milliards, ça. C'est énorme.
Donc, on devrait aussi, donc, point numéro 3, réformer la fonction publique. Ça, c'est 8,4 milliards d'économies et geler le point d'indice.
D'ailleurs, on pourrait réformer la fonction publique et décider, ce qui me paraîtrait assez raisonnable, que les seuls qui sont, qui bénéficient du station pub, de la fonction publique, du statut de la fonction publique tel que défini par les communistes en 45, c'est les fonctions régaliennes, c'est-à-dire l'armée, la justice, etc., mais pas les fonctions administratives locales, etc. Ça, il n'y a pas de raison que ce soit...
Il est certain que tu ne devrais pas mettre sur un même plan un gendarme et la dame qui met les tampons sur les passeports à la mairie. Quoi.
À la sécurité sociale, sans aucun intérêt. Donc il y a aussi ça, mais ça, c'est des réformes assez profondes. Il y a aussi quelque chose que j'ai jamais compris, je ne sais pas si elle en parle dans son livre, mais c'est que toutes ces histoires de retraite, à 62 ans, 64 ans, je crois que les Français ont la plus basse à 62 ans. Il y a le ministre des Finances danoise qui vient de dire, je crois qu'au Danois, c'est à 67 ou 68 ans, que les Français vivaient dans une planète parallèle avec 62 ans. Donc, bref, il y a des gens qui... Les socialistes...
On va en parler.
Mais il y a aussi quelque chose qui paraît évident, c'est pourquoi on n'interdirait pas aussi une partie volontariat dans la retraite, la prise de retraite? Parce que, bon, je connais des tas de gens comme Raoult, à qui on vire à 62 ans, je sais pas quoi, il serait peut-être content de travailler encore 7 ou 8 ans. Donc à la place de tirer, il donnerait. Donc on pourrait dire à des gens, vous prenez la retraite si vous voulez à 62 ans, mais si vous la prenez plus tard, ben vous pouvez rester. Tiens, ben on vous paiera pas plus, mais vous pouvez rester. Mon cher frère qui vient en Suède, il a travaillé longtemps alors qu'il était à la retraite. Hein. Ben, il continue à cotiser, mais ça augmentait pas ses droits à la retraite. Mais il était très content de bosser.
J'ai ça avec ma gynécologue qui est très contente de continuer à bosser, mais elle a un malus. Parce qu'elle continue à bosser après l'âge de la retraite.
Au moins, on pourrait quand même arrêter le malus. Sans donner un bonus, puisqu'on n'a pas un rond, mais on peut arrêter le malus.
Ouais. Et on manque de gynécologues.
On manque de médecins partout. Et tu sais pourquoi on manque de médecins? J'ai appris ça, c'est un médecin qui m'a dit ça. C'est que Juppé avait fait un numerus clausus.
Bien sûr.
Et donc, les femmes sont beaucoup plus diligentes que les hommes, elles ont de meilleurs résultats aux examens, tout le monde sait ça. Donc, il y a donc eu une infusion énorme de femmes. Mais les femmes, quand elles atteignent 35-40 ans, elles n'ont pas le même profil de carrière. Elles ne restent pas à travailler 85 heures par semaine, j'en sais rien. Elles vont dans des oppositions différentes et tout. Du coup, on n'a pas intégré dans la réflexion le fait
que... Le quotient féminin et le fait que les femmes n'allaient pas vouloir aller forcément dans les territoires faire 85 heures par semaine.
Et conduire dans le neige et tout.
Voilà, parce qu'elles ont des enfants et elles préfèrent être radiologues et bosser 27 heures.
Et donc, c'est exactement le cas parfait du haut fonctionnaire qui prend des décisions, parce que Juppé, ça a quand même été un des pires, qui prend des décisions global, comme ça, en disant tout le monde va réagir de la même façon. Ben non, il y a les hommes et les femmes, et ça réagit pas pareil. Dieu sait qu'on l'a dit ici, c'est pas tout à fait pareil.
Donc, réformer l'assurance chômage, ça ferait 2,6 milliards d'euros d'économies. Changer, pareil, France Recouvrement, ça c'est 25 milliards d'économies. Une nouvelle réforme des retraites est absolument nécessaire. là, c'est 20 milliards d'économies.
Mais on pourrait simplement...
introduire une dose de capitalisation, bien évidemment.
Une cause de volontariat. Mm. C'est-à-dire, si vous voulez continuer à bosser, bah, allez-y, les gars, continuez à bosser. Quoi. Y a pas, si t'as été cantonnier à casser des cailloux sur la route de Louviers, bon, je veux bien. Tu prends ta retraite à 62 ans, mais si t'es professeur de médecine, t'as peut-être encore quelque chose à dire, j'en sais rien. C'est idiot.
Moderniser le système de santé, je t'ai dit, c'est 17,5 milliards d'économies et baisse des subventions et des financements européens, parce que cette histoire à l'Europe, on verse quand même 10 milliards qu'on pourrait avoir d'économies. Donc voilà, si vous voulez, si ces choses-là vous intéressent, ça sera en page 57 de ce livre, pour vous expliquer en gros comment on pourrait faire déjà des réformes structurelles pour trouver des sous qu'on n'a plus, parce qu'il s'agirait encore une fois de se mettre un petit peu, face au mur de la réalité.
Quand on était dans la quatrième... République, comme tu l'as très bien signalé, on avait notre monnaie indépendante. Aujourd'hui, on s'est mis dans une position où on emprunte dans une monnaie...
Qui n'est pas la nôtre,
c'est-à-dire que la Banque de France ne peut pas acheter la dette sans la permission de la BME.
C'est comme ça que le Liban a sauté, c'est comme ça que les pays sautent très bien quand ils empruntent dans une monnaie
qui n'est pas la leur. Sinon, on peut amener la monnaie à zéro, d'accord. Mais en tout cas...
Dévaluer largement... Et puis
au moins la dette disparaît, tandis que là, c'est pas possible. Et c'est très curieux, cette espèce d'incompréhension, parce que je reviens une seconde aux notions de souveraineté qui, pour moi, sont essentielles. La souveraineté, ça a été défini par les légistes à l'époque d'à peu près de Philippe le Bel, Philippe Auguste, donc il y a en 1300 par là. Bon, quelles sont les caractéristiques de la souveraineté? Ben, le premier, c'est des frontières.
Mmh. Bah oui, il faut un cadre juridique pour appliquer la loi.
Ton pouvoir va s'exercer. Bien, il y aura quelqu'un qui a la violence légitime sur ce territoire. Le deuxième, c'est une armée pour défendre les frontières. C'est un truc qui est important, ça aussi.
Ça, c'est le gros gourdin.
C'est le gros gourdin qui ne vient pas t'embêter. Le troisième, c'est une police pour faire régner l'ordre contre les méchants qui rentreraient de l'extérieur, qui seraient des crapules. Bon.
Et ceux qui ne payent pas leur
facture. Le quatrième, c'est la suprématie de la loi locale. Et le cinquième, c'est la possibilité d'imprimer monnaie. Or, tu te rends compte que depuis M. Delors, on a perdu ces cinq souverainetés? On ne les a plus. Et donc, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dépenser, j'imagine. Puisqu'ils sont plus responsables de rien. Ils n'ont plus les outils. Je trouve ça absolument extraordinaire que, en l'espace de quoi? C'était 87, 88, Delors, allez, si tout va bien. En l'espace de quoi? De 40 ans? On a défait tout le travail sur la souveraineté qui avait été fait par tous les souverains français depuis... 1300, c'est complètement crétin, mais je ne comprends même pas. Et sans que le peuple ait jamais voté, s'il a voté une fois, il a dit on n'en veut pas et on l'a filé quand même. Donc, il y a eu une trahison de la nation par les élites qui est inouïe et sans exemple dans l'histoire, mais volontaire, sans que je sache ce que cela leur a rapporté à eux. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est incompréhensible. C'est des gars qui on leur a collé le mauvais logiciel dans la tête, et ça marche pas, mais ils n'osent pas enlever la prise.
C'est un peu ça. Indépendamment de la dette, indépendamment de ce risque énorme et du fait que notre État fonctionne sur un niveau qui est bien trop haut, il y a aussi une autre réalité, c'est la désindustrialisation du pays. Donc il est quand même aussi très difficile, indépendamment du fait que l'on dépense beaucoup, nous ne créons plus de richesses. Donc ça, c'est quand même un autre problème, c'est que...
On transfère de plus en plus de richesses qu'on ne crée plus.
Voilà, donc ça, c'est quand même un énorme problème. Alors, le premier dans l'industrie, quand même problème que nous avons auto-créé, sur le secteur automobile, ça a été le passage au 100% électrique. Alors là, une façon de se coller dans un moment difficile une balle dans le genou, je pense qu'on n'en avait pas vu.
Et ce qu'il y a de marrant, c'est que les Allemands ont été se la coller aussi.
Oui, mais alors, c'est bon.
Ça a été encore un truc européen. C'était européens qui ont décidé qu'il fallait que toutes les voitures soient électriques. Et on faisait ni batterie. Ni on avait bâti des centrales nucléaires pour faire l'électricité, ni rien, mais ça fait rien. Donc c'est des gars qui décrètent que les Turcs ne prendront pas Constantinople. Mais manque de peau, les Turcs, ils n'étaient pas au courant.
Donc on a une part de l'industrie dans le PIB qui est passée de 28,8 à 16,8 et 1000 milliards de chiffre d'affaires par an. L'industrie allemande en dégage le double. Et la France, de 1974 à 2019, a perdu 2,5 millions d'emplois industriels.
Alors là, je voudrais faire une petite remarque. C'est... Et je l'ai faite et je vais la refaire parce qu'elle me paraît importante. Les gens me disent « nous n'avons plus de capacité industrielle ». C'est faux. Parce que vous prenez les 10 valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Vous avez Legrand, vous avez L'Oréal, vous avez Air Liquide, vous avez Schneider, vous avez tout ça. Quand vous faites, elle a cité l'Allemagne qui est le double de nous, vous prenez l'indice Morgan Stanley Capital International des valeurs industrielles en Europe, donc qui recoupe les grandes valeurs industrielles partout en Europe. La France fait 28% de cet indice, l'Allemagne fait 22%. Beaucoup moins que nous. C'est-à-dire que nous avons des valeurs industrielles immenses, mais qui ont une caractéristique extraordinaire, et c'est les seuls dans le monde à faire ça, qui n'ont aucune usine dans leur propre pays. Donc la question essentielle, c'est pas que nous soyons désindustrialisés, nous avons toujours les compétences, les ingénieurs, et ce sont des valeurs immenses. Hein. Schneider, c'est une énorme capitalisation. Et ces affaires ont décidé de ne pas investir en France parce que la rentabilité du capital investi était trop faible. Donc, la question, c'est pas la désindustrialisation de la France, c'est pourquoi les entreprises industrielles françaises ont-elles décidé de ne plus investir en France? Et ça, on peut le mettre tranquillement au pied de l'inspection des finances.
Alors, on va arriver sur notre capacité de travail et différentes choses, mais en tout cas, pour l'instant, on constate que les sous-traitants automobiles sont en train de déposer des bilans les uns après les autres, et ce qui veut dire aussi perte d'emplois dans des secteurs et des secteurs sinistrés avec des plans sociaux.
Il y a aussi autre chose que j'ai appris récemment. Je suis confus, je continue à apprendre à mon âge. C'est que dans le temps, vous aviez un secteur industriel diversifié en France, avec justement des grosses boîtes et des petites qui travaillaient pour les grosses. Et vous aviez un appareil bancaire qui était aussi très décentralisé. C'est-à-dire que vous aviez la Banque Courtois à Toulouse, qui connaissait ceux qui savaient prêter aux locaux et tout. Et l'inspection des finances a voulu faire des banques mondiales. Donc ils ont racheté toutes ces petites banques, ils les ont forcées à se vendre. Et ensuite, je crois...
Surtout, ils leur ont collé une obligation d'avoir des départements compliance
qui les foutaient
en l'air, parce que ça coûte extrêmement cher, de sorte qu'il n'est plus possible maintenant qu'aux grandes banques de se payer ce genre de service, et les petites ne peuvent plus...
Et alors, il y a aussi de l'ordre qui a été donné par l'inspection des finances que...
Je ne digère pas Bouli.
Oui. Que toute le cash devait remonter à Paris. Et donc, à ce moment-là... pour que ce soit géré par des trésoreries de la Générale, de la BNP, etc. Bon. Donc tout le cash est remonté à Paris. Et du coup, tout le travail personnel qui était fait par des banques comme la Banque Courtois à Toulouse, de connaître les petits industriels locaux, de leur prêter quand ils étaient en difficulté, etc. On m'a cité des cas d'ailleurs de la Banque Courtois qui avait sauvé des entreprises, et puis quand la Banque Courtois était en difficulté, c'est les entreprises qui ont été venues sauver la Banque Courtois. Tu vois, il y avait une espèce de...
Oui, ben, de maillage.
Eh bien, on a détruit ça. Du coup, maintenant, tout le pognon est à Paris, et à Bourg-en-Bresse, il n'y a plus un rond. Tu vois, il n'y a plus l'épargne locale qui devrait s'investir localement, ou au moins une partie. Et donc, tout a été fait pour concentrer tout à Paris, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, l'argent, etc. Et ce qui fait que, ben, après ça, ils ont plein de pognon à dépenser, qui font n'importe quoi. Et maintenant, l'extraordinaire, c'est qu'on va nous dire maintenant, ça suffit pas à Paris. Vous savez quoi? On va le foutre à Bruxelles. Ça sera marchand encore mieux.
C'est à désespérer de la nature humaine. L'autre problème qu'on a, c'est que la richesse marchande est à portion congrue aujourd'hui en France. Nous ne créons plus assez de richesse dans nos entreprises. Et la valeur ajoutée créée par l'activité privée est en décroissance totale depuis un bon moment.
Ce que j'ai montré, c'est la partie... j'avais un graphique que j'aurais pu mettre, mais j'ai pas mis ici. J'aurais pu le mettre. D'ailleurs, c'était bon. On fait la dette par rapport au PIB. Vous avez tous vu ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais si tu l'as fait la dette par rapport au PIB du secteur privé, qui devra rembourser cette dette parce que c'est pas le secteur public qui va s'auto-payer. Donc du secteur privé, t'es pas 100% du PIB, t'es à 240.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il nous manque environ 130 milliards d'euros de création de richesse aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on a un PIB, on le sait, qui est fait d'une addition de choux et de carottes. C'est-à-dire qu'on additionne le PIB qui crée de la richesse, les entrepreneurs, avec le PIB des mairies. Hein, ce qui est quand même une drôle d'addition, mais soit. Et donc, effectivement, il faut quand même voir qu'à la façon du tiers-État, il n'y en a qu'un qui porte tout le monde sur son dos. Et la création de richesse aujourd'hui n'a plus lieu. Donc, ça va être difficile de relancer une économie des dames de mairie, quoi. Mais c'est pas la question.
Non, mais le vrai problème, c'est bien de répartir la richesse, c'est très bien. Mais il faut d'abord commencer par la créer, sinon on ne voit pas très bien. On va voir très bien ce qu'on va répartir, puisqu'on n'en crée plus. Donc le vrai problème, c'est que la plupart des gens dans ce pays pensent que si tu mets du capital et du travail, tu vas créer de la richesse, rien du tout. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui s'appelle l'entrepreneur, qui optimise l'utilisation du capital et du travail, et qui donne à la sortie plus qu'il n'a mis à la rentrée. Oui. Et bien si tu refuses ce rôle de l'entrepreneur,
Ou que tu le surtaxes,
et bien automatiquement, encore une fois, c'est ce que je dis, quand j'étais à Hong Kong, mes impôts c'était 17% par an, je pouvais réinvestir 83% de ce que je gagnais. Ben, c'était vachement bien, tu réinvestis, ça tourne là. Mais si tu peux en réinvestir que 30, ben, d'un seul coup, ma capacité à créer de la richesse a baissé de 70%.
Non seulement ça, mais en plus, si tu as la crainte que tes 30, tu puisses plus les utiliser ou ainsi de suite, tu vas dire, mon Dieu, les 30...
Et quand tu as les 30, surtout, si tu as l'impression que tu vas sauter parce que tu vois tous tes copains sauter, tu vas les mettre...
dans une boîte à chaussures.
En or.
Voilà.
En or, et tu vas attendre tranquillement, quoi.
Alors, autre chose, c'est notre rang mondial dans le PIB, on est 23e.
Et on était quasiment premier au moment où... dans les années Pompidou, on était en train de passer au-dessus des États-Unis, quoi.
On était 11e et on avait un niveau de vie qui était bien meilleur qu'aujourd'hui et bien meilleur que pratiquement les États-Unis. Aujourd'hui, je crois que notre niveau de vie est celui de personnes dans l'Arkansas aux États-Unis. C'est-à-dire, qui n'est pas le coin le plus riche. C'est-à-dire qu'on est très en dessous du niveau de vie d'Américains ou de Canadiens ou d'autres personnes.
C'est-à-dire qu'on a perdu des places et on voit ça partout, on voit ça dans l'enseignement, on voit ça dans la recherche, on voit ça partout.
Alors autre chose, c'est qu'on entend souvent cette idée qui est fausse, que certes on travaille pas beaucoup d'heures en France, mais on serait les plus productifs. Alors c'est pas du tout vrai. On n'est pas du tout les plus productifs par heure. On l'était à un moment, mais c'est vraiment c'est complètement faux, surtout depuis le Covid. Nous avons la plus forte baisse de richesse par heure travaillée. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout les plus productifs.
Mais ça va avec la fermeture des usines.
Oui.
C'est-à-dire que si tu gardes le nombre de fonctionnaires et que le nombre d'usines baisse, comme c'est là où il y avait la productivité la plus forte, ben, automatiquement, la moyenne va baisser parce que ta secrétaire de mairie, elle produit toujours la même chose, hein. Il n'y a pas de productivité, là. Enfin, pas vraiment.
Alors, en France, on a 1673 heures. C'est la durée effective annuelle de travail d'un salarié à temps complet. C'est la troisième durée la plus basse en Europe. Depuis la mise en place des 35 heures, il faudrait donc que nous travaillions 117 heures de plus en France, soit 10 heures de plus par mois.
Et c'est très intéressant. Parce que ça va exactement contraire à toute la... Les théories qui sévissent à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut partager le travail.
On avait eu l'exemple avec ce monsieur Larutourou qui t'avait traité de nazi en point numéro un chez Thinkerview sans que le jeune Sky ne trouve à redire, parce que c'est normal de polisser un débat et de laisser la personne en face traiter autrui de nazi. On va dire que ce sont des bonnes règles de départ. Et donc ce monsieur expliquait qu'il fallait partager le travail et qu'il y en avait bien assez pour tout le monde et qu'on allait faire tous 3 ou 4 heures par semaine. Comme si Charles était par exemple une unité remplaçable et comme si moi demain j'allais faire une opération à cœur ouvert pédiatrique à Necker. C'est complètement idiot. Oui, s'il est question de balayer
le local... Mais par contre, il y a beaucoup
local,
de gens qui pouvaient remplacer M. Larutourou.
Je pense, effectivement.
Dans les différents travaux qu'il a fait, à mon avis, il devait être assez facilement remplaçable.
Si vous considérez que le travail de tout le monde dans la vie est de passer le balai dans une rue, oui, je conçois qu'on soit remplaçable. Mais vous avez bien conscience que la plupart du temps aussi, dans certains domaines, on a fait des études supérieures pour justement avoir une spécificité qui fait que nous ne sommes pas des pions remplaçables. Nous avons en général développé un savoir-faire. Vous pouvez pas, quand un avocat, par exemple, un cabinet professionnel, il n'est pas remplaçable par un autre parce qu'il connaîtra, il aura une spécificité qui va faire qu'on a besoin de lui, on a besoin
et
de son savoir.
Le directeur de banque, pour revenir à la Banque Courtois, le directeur de banque de la Banque Courtois connaissait les gens qui vivaient autour de lui parce qu'il avait été en classe avec eux, il savait lesquels étaient titipiens, ceux à qui on pouvait prêter. Ce que disait JP Morgan, entre un bilan que je regarde et un homme que je connais, je prêterai toujours à l'homme que je connais.
Oui, et puis regarde là, par exemple, on a Guillaume qui nous fait les vidéos. Si demain tu me dis tu remplaces Guillaume, je vais être bien embêté parce que moi je sais pas comment ça marche ces trucs-là.
Et lui encore plus, hein.
Oui. Et s'imaginer qu'on serait des pions remplaçables, c'est idiot parce
c'est
que.
L'idée de Sowell, il dit, c'est complètement crétin.
C'est.
Il n'existe encore une fois que des individus. Et donc c'est pour ça que je reviens à cette idée de retraite.
Mais quelque part, c'est très communiste, tu vois.
C'est
dans l'idée d'un grand taylorisme du travail, on met tous nos petites salopettes à la Mao, on va tous sur un petit vélo et on se balade tous avec un petit livre rouge. Ouais. Et là, on est des pions, on est effectivement remplaçables.
On est effectivement remplaçables. Mais par contre, l'économie chinoise, qui faisait 20% de l'économie mondiale en 1800, est tombée à 2,5% sous Mao. Et depuis que.
Et le grand bond en avant.
Le grand bond en avant, qui était un grand bond en arrière, où il y a eu d'ailleurs 40 millions de morts. Et puis quand Deng Xiaoping est arrivé et dit non, la couleur du chat importe peu à condition qu'il attrape les souris, c'est exactement le contraire de ce qu'il disait Lao Tzu, à ce moment-là, maintenant, ils sont en train de revenir à 13 ou 14% du PIB mondial, ils vont arriver à 20. Donc, si tu veux, c'est. Encore une fois, on retrouve toujours la même chose. L'enfer, c'est des gens qui considèrent que vous êtes un numéro, que vous êtes remplaçable.
L'enfer, c'est déjà des gens qui s'imaginent qu'une planification globale serait possible et que eux, surtout, qui en général n'ont jamais tenu une baraque à frites, auraient la solution. À la rigueur, je veux bien entendre qu'un grand patron d'industrie, M. Bolloré, M. Arnault, quoi que ce soit, vienne donner des conseils d'entreprise, parce que je me dis, bon, à la rigueur, ça, c'est apprendre de personnes qui ont eu les mains dans le cambouis.
Mais ce que fera quelqu'un comme Musk, par exemple, c'est qu'il ira dans tous les endroits où on traite les gens comme des pions, et il dira, vous savez à rien, et on va vous virer, et vous serez beaucoup plus heureux. Mmh. Ça paraît curieux, parce que moi, j'avais une amie qui était économiste, qui avait fait l'ENSAE, donc l'école de statistique et tout, qui était brillante, et qui avait été embauchée à l'INSEE. Elle est partie au bout de 7 ou 8 ans pour aller travailler dans une charité pour les enfants aveugles, parce qu'elle disait que c'était insupportable de ne rien avoir à faire toute la journée. C'était débilitant. C'était affreux. Tu te dis, donc je viens, tu regardes la pendule toute la journée en te disant, bon, encore 5 minutes, encore 3 minutes. On peut dire ce qu'on veut, mais à Gafcal ou à l'Institut des Libertés, là, les gens, quand ils arrivent le matin, ils sont plutôt rigolards, ils sont contents de venir. Ils savent qu'ils vont bosser, mais...
Non, je trouve qu'effectivement, mais ça, c'est... Il n'y a rien de
diaboliser
pire.
Le travail, c'est affreux.
Ouais. Bon, en tout cas, nous continuons dans les bonnes espérances. Nous allons tranquillement vers le mur de la faillite. Comme on a vu là, on a Michelin et Auchan qui sont touchés. On a des fermetures de sites, ça et là. On a 64...
Ils sont touchés, pour Michelin, ils sont touchés en France.
Oui. Là, je te parle de la France.
De France, mais parce que Michelin, si tu veux, ils continuent à faire les meilleurs pneus d'avion, je sais pas où.
Non, mais là, je parle...
Ils font des usines.
Non, je parle pas des sociétés françaises.
Mais non, parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que... Tu vois les crétins à l'Assemblée nationale qui disent Michelin ferme Clermont-Ferrand alors qu'ils ont gagné X milliards cette année.
Ah oui, non, mais c'est les crétins.
Non, mais c'est donc ils ont gagné des milliards cette année, mais à Clermont-Ferrand, ils perdent de l'argent.
Oui, bah bien sûr.
Donc ils vont pas envoyer du bon argent vers du mauvais.
Bah, non.
C'est pas le rôle d'un entrepreneur.
Non. Bah, le rôle d'un entrepreneur, encore une fois, c'est pas une charité, c'est d'avoir une société qui est profitable. Alors tu peux te dire pendant un temps X, le Covid ou quoi, je vais fermer les yeux sur le fait que cette usine ne fonctionne pas et fonctionne à perte. Tu peux te dire, et encore, tu peux pas faire des transferts depuis tes comptes consolidés d'une société là-bas. Pour ici, ça serait de l'abus de bien social. Donc, tu peux tenir et serrer les fesses, on va dire, pendant un ou deux ans, mais il y a un moment où si ta société
surtout
est pas rentable...
Surtout Michelin, c'était c'était Clermont-Ferrand. Donc, si tu veux, pour eux, ils ont probablement tenu aussi longtemps qu'ils pouvaient, sans toucher au...
au fer de lance, parce qu'il y a une question de prestige aussi.
L'origine,
quoi.
C'est, voilà, c'est...
Mais au bout d'un moment, tu peux pas... ou alors, tu te dis, tu le passes en fondation, et tu te dis, c'est mon œuvre. Mais
c'est pas possible, parce que si t'es à perte, ta fondation, elle va... elle va tomber à zéro aussi. Non, il y a c'est ainsi fait que malheureusement, si vous avez le choix vous êtes un industriel, vous avez le choix des usines en France, en Allemagne, en Italie, je sais pas où, et vous devez en fermer une, c'est toujours la France qui sortira en premier.
On a un autre gros problème aujourd'hui en France, bien sûr, c'est la construction qui est extrêmement touchée.
Et c'est là où il y avait beaucoup de petits entrepreneurs.
Bien sûr. Et alors aussi, j'en parlais il n'y a pas longtemps, là, dans le développement, l'industrie automobile, avec le piège de la sobriété énergétique, on s'en est pris aussi plein la tête. On a une chute de 11% depuis octobre 2023 et de 18% pour les véhicules électriques. C'est 65 000 emplois menacés. Il faut quand même, au bout d'un moment, arrêter le massacre de notre filière automobile parce que ce sont des emplois et parce que c'est quand même complètement idiot.
Et alors, je voudrais simplement... Et on le fait pour des raisons écologiques, hein, soi-disant. Mais c'est pour ceux que la question intéresse vraiment. Il y a un homme éminent que vous devez lire ou écouter, qui s'appelle Bjørn Lomborg, qui est un Danois, qui avait écrit il y a 25 ans un livre qui s'appelait « L'environnementaliste sceptique », dans lequel il expliquait qu'il y avait un problème, mais que les façons dont on apportait ce problème étaient complètement idiotes. Et ça fait 25 ans qu'il dit la même, qu'il creuse son sujet, qu'il le connaît très bien. Et d'ailleurs, il était à Arc. Et vous vous dites, quand vous écoutez ce gars-là, vous dites, mais on a tout faux. Là, voilà un gars qui étudie ça et qui essaye. Son but, c'est de dire, compte tenu du pognon qu'on met, combien je traite du problème. Et il dit, on met un pognon absolument gigantesque dans un truc qui ne traite en rien le problème et on ne traite pas les vrais problèmes. Par exemple, en Afrique, il y a une pollution monstrueuse parce que il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie, donc ils brûlent soit du bois, soit des excréments de bœuf, tu sais, la bouse de bœuf. Et du coup, il y a plein de gens qui meurent, c'est dégueulasse, etc. Donc il dit, l'un des premiers problèmes, ce serait d'essayer d'électrifier l'Afrique. Ça serait d'établir des... Peut-être que ça nous aiderait plus. Donc, à la place de tuer l'industrie automobile, on pourrait peut-être développer l'industrie nucléaire française pour aller la coller en Afrique. Ce serait peut-être pas plus bête, quoi.
Et oui.
Mais donc, c'est extraordinaire de voir le point de vue idéologique de ces gens. C'est-à-dire qu'ils détestent la voiture. Hier soir, pour rentrer de l'aéroport, j'ai pris un taxi, qui était un bon musulman, un type au poil, et qui me disait, mais monsieur, vous comprenez pas, la dame a... Hidalgo, là, elle empêche les pauvres de rentrer en voiture à Paris, et à minuit, quand il n'y a personne sur le...
Oui, on fait du 50. T'as vu comme c'est énervant?
C'est énervant. T'as envie de mettre des claques.
Je rentrais avec une amie parce qu'elle m'avait invité au Philharmonique, qui est donc sur le périph. Donc, il était 23h. Et on est là, comme des glands, à 50. Mais c'est très... alors qu'il n'y a personne. Il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche. Et il me dit, mais je suis obligée, madame. Et on a mis pour toujours, on était là. Oh.
Voilà. Et donc, tout ça, c'est de l'idéologie. Et tu peux pas... On aimerait avoir des gens normaux au pouvoir, pas des crétins. Donc, tout ce qu'on veut dire, c'est que...
Parce qu'il faut voir le périph, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Donc, soit il est bondé, et de toute façon, c'est pas la peine de vous dire d'aller à 50, vous êtes à 20, hein, vous êtes roue dans roue. Soit c'est le soir, et il n'y a personne. Et dans ces cas-là, expliquez-moi pourquoi je suis obligé d'aller à 50 sur une roue à 4 voies.
Mais il y a quelque chose qui m'étonne aussi sur le périphérique, c'est que dans le temps, il était à 90, et que j'ai pas l'impression que les gens se tuaient comme des lapins. Et j'ai l'impression que les moteurs qui tournent à 50 polluent plus que les moteurs qui tournent à 90 parce qu'ils sont plus efficaces à 90 qu'à 50. Donc vous dites, mais il y a eu des études qu'on appelle d'impact. On a essayé de comprendre ce qu'on faisait. Non, pas du tout. On a passé un truc comme ça, pouf. Donc tous ces gens comme ces crétins de Jospin qui a fermé Super Phoenix, qui nous donnait une avance de 30 ans sur tout le monde. Donc il faut interdire aux fonctionnaires de faire de la politique.
Oui, aussi. Et alors, ce qui m'amène sur ma dernière partie, qui est un grand problème qu'on a en France, c'est le mur des normes.
Non, mais ça, c'est fou, ça.
On a plus de 40 000 normes. En 2002, nos lois comptaient 23 millions de mots. On en compte maintenant 45 millions. On a 45 millions de mots dans nos lois.
Et toi, t'es un paysan, était en train de dire comment il doit faire pousser ta luzerne.
Alors, on a de la complexité à tous les étages, et évidemment, le code qui est devenu le pire, c'est le code de l'environnement, qui tous les jours reprend des mots, des lois, plus personne n'y comprend rien, et tout le monde sait que pour avoir une justice avec célérité, il faut déjà connaître la loi. Et on ne peut pas connaître la loi si on nous impose des nouvelles normes absolument tout le temps, qui parfois se contredisent les unes aux autres.
Et alors les normes, ça tue l'immobilier, ça tue la construction, ça tue donc tous les... Il y avait beaucoup de petits entrepreneurs qui étaient dans l'immobilier. Ça tue le code du travail plus le code de l'environnement, ça veut dire que plus personne ne peut plus rien bâtir nulle part.
Et alors, comme si ça ne suffisait pas, on rajoute de la norme à la norme, puisque maintenant on a donc les normes européennes, c'est 20 milliards en plus pour la France. Hein ? Donc on se prend une charge administrative absolument à tous les niveaux, qui, vous allez me dire, crée des emplois.
Mais rien du tout. Ça crée des chômeurs, oui.
Voilà, donc on doit payer des gens pour essayer de comprendre des normes qu'on a fait nous-mêmes. Et tout ça, on ajoute de la norme à la norme.
Ce que dit Didier, qui est très fort, c'est... Mettons que tu aies trois couches
de sédimentation.
Pour faire des normes. Si chacune des trois couches a la possibilité de dire non, tu es à peu près certain qu'il y en aura un des trois qui dira non.
Mais
parce que
sûr.
Si il n'y en avait qu'un... Il serait responsable.
Ah bah, de toute façon, probabilité, ça se calcule.
Mais ça se calcule. Et donc,
50,
il dit,
ça, voilà. Bon.
Voilà, t'arrives à peu près 50. S'il y en avait deux, ça ferait 50. 3, ça fait 50. Ça fait 25, allez. Donc, il y a à peu près 3 chances sur 4 qu'on va te dire non. Qu'il y en a un des trois qui va trouver une raison pour te dire non.
Rien que pour faire le malin par rapport aux deux autres.
Exactement. Et donc, tu te retrouves, toi, tant que toi, t'es l'entrepreneur, et tu te dis, ben alors... je vais me faire embaucher par la sécurité sociale.
Sans compter que ça prend un temps fou, ça coûte du pognon parce que tu es obligé de prendre un avocat, tu es obligé de pousser tes dossiers, que c'est chiant. Ça emmerde tout le monde de remplir des papiers, je crois qu'on peut le dire, même mon chien. Enfin voilà, bon, tout ça pour dire que si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire ce livre qui est... plein de... Alors aussi, à la fin, vous avez plein de graphiques, de données brutes. Ça sert toujours parce que, encore une fois, personne ne peut remettre en cause... Jeeves !
Ça suffit, Jeeves.
Personne ne peut remettre en cause des chiffres, des notations. Là, vous avez des graphiques. Alors effectivement, j'ai vu, ils ne sont pas en couleur. Bah, ça coûte très cher de les faire en couleur. On avait eu le problème avec ton premier. Voilà, ça permet quand même de se faire une bonne idée de la situation actuelle. Il y a aussi toute une partie sur la sécurité que j'ai choisi de ne pas traiter parce qu'on s'attelle quand même plus à l'économie et je préférais qu'on s'occupe un petit peu plus des graphiques. Il nous fait un concert.
Parce qu'en plus, j'ai un problème de sécurité. Là, j'ai pas grand conseil à vous donner.
Mais c'est pour ça.
Si je vais vous acheter des armes et je sais pas quoi, mais enfin, par rapport à ça, je sais pas
non,
trop
non,
quoi vous dire.
Non, mais si tu veux, là, notre rôle, c'est pour nous de parler d'économie dans ce segment.
Et comment vous protéger.
Et comment vous protéger face à tout ça. Et puis là, c'était un constat de réalité face à une situation. Les élections, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que dans vos discussions politiques, prendre en compte ces réalités concrètes qu'on vient de vous expliquer et demander à vos politiques de terrain et nationaux de répondre à ces questionnements parce qu'ils sont réels et il faut arrêter avec nos altermoiements parce qu'on risque de prendre justement le mur en pleine face.
Et il faut voter Berkoff.
Allez, je vous dis à la semaine prochaine, mettez des likes et on vous dit à très bientôt.
Et on n'est toujours pas 400 000. Hein.
Oui, mais ça sera ton anniversaire.